Bonjour le BTM, merci beaucoup pour les soins que vous prenez les uns des autres. Merci pour les encouragements téléphoniques, les mots sur le Facebook Live de l'Église et tous les moyens que vous utilisez pour encourager les frères et sœurs de l'Église. C'est très encourageant pour nous aussi de voir combien l'Église vit pendant ces moments de crise. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin avec ce passage de Ésaïe chapitre 22, avec ce titre particulier, « Oracle sur la vallée des visions ». Voilà un titre énigmatique, n'est-ce pas ? La vallée, c'est précisément l'endroit où on ne voit pas grand-chose. C'est sur les sommets que l'on se rend pour voir au loin, habituellement. On comprend dans le reste du chapitre que c'est de Jérusalem dont Ésaïe parle, de Jérusalem et de ses habitants. Ses habitants prétendent connaître Dieu et comprendre ses voies. Mais en réalité, ils sont au fond de la vallée et ils ont perdu toute perspective juste. Ils ne discernent absolument pas ce qui les menace. Là, dans votre confinement, vous n'avez pas l'impression d'être dans le fond de la vallée. On vit au jour le jour dans l'incertitude. On a une vision à très court terme. Aujourd'hui, je vous invite à essayer de prendre de la hauteur avec Ésaïe par rapport à la crise que nous connaissons. Le prophète interpelle la ville de Jérusalem ici et il dénonce la folie de voir seulement à court terme. Il dénonce ensuite la folie de regarder seulement à nos propres ressources. Et puis enfin, la folie de nous appuyer seulement sur nos leaders. Regardez, la folie de voir seulement à court terme, dans les versets 1 à 8. Le contexte historique est très certainement l'attaque de Sargon, le roi d'Assyrie, contre les villes philistines, notamment Asdod, dont il est fait mention dans le chapitre 20, verset 1. Vers 711 avant Jésus-Christ, tout cela. Asdod est à environ 50-60 kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem. C'est-à-dire que l'envahisseur lointain de la Syrie est tout près à présent. Et ça a dû effrayer énormément les habitants de Jérusalem. Et ils ont commencé à reconstruire la ville, à regarder comment on pouvait consolider les murailles. Mais après l'attaque d'une des villes des Philistins, les Assyriens se sont retirés. Alors les habitants de Jérusalem font la fête. Regardez verset 1. « Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits ? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse !» Ils ne voient qu'à court terme. Ils ont une vision immédiate simplement. Ils ne voient pas ce que voit Ésaïe, qui semblerait être sur les sommets, lui. Ésaïe voit l'invasion suivante, l'invasion babylonienne qui va raser Jérusalem et conduira tout le peuple en déportation 125 ans plus tard. Voyez-vous, ce qu'Ésaïe voit est terrifiant. Dans le verset 2, il est dit « Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant », c'est-à-dire, ils ne vont pas mourir en combattant, ils vont juste mourir de faim derrière leurs murailles. Regardez verset 3, « Tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers, tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. » Chacun essaye, c'est la débâcle, chacun essaye de fuir, mais tous sont arrêtés et emmenés en déportation. Alors Ésaïe pleure, verset 4, « C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. » Oui, il pleure, il est abattu, personne ne peut le consoler. Ce qu'Ésaïe voit, au verset 5, c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est probablement ce que nous allons vivre, voyez-vous. On a vu ce que le virus a fait à la Chine, mais ça c'était très loin, on était tranquille. Et puis, on se disait qu'un virus chinois, ce n'est pas de trop bonne qualité. Ça ne va pas durer. Puis, le virus est arrivé en Italie. Et ça, c'est la porte à côté. On a commencé à faire attention. Et puis, le virus a même atteint une église évangélique. Et là, c'est le branle-bas de combat. Tous derrière nos barricades, en confinement. Nous connaissons une épidémie terrible. Tout le monde s'inquiète, on prend des mesures drastiques pour combattre. Nous sommes en guerre. Mais dans un mois, dans deux mois, quand le virus sera retiré, on va faire la fête. On va rattraper toutes ces semaines de confinement, comme l'ont fait les habitants de Jérusalem. On voit à court terme. On ne voit pas la fin de l'histoire. On refuse de voir le jugement auquel chacun d'entre nous sera confronté. On ne réfléchit pas sur la brièveté de la vie. On ne lève pas les yeux vers celui qui envoie ces choses pour nous alerter. On ne se prépare pas à la rencontre de notre Dieu. Ésaïe dénonce encore la folie de regarder seulement à nos propres ressources dans les versets 8 à 14. Ils prennent de bonnes mesures pour se protéger du danger immédiat. Au verset 8, il est dit que les derniers retranchements de Juda sont forcés. En ce jour, tu visites les armures de la maison de la forêt. Tu, c'est certainement Shemna, le gouverneur du palais. Mais ils visitent cette maison de la forêt. C'est, au fond, cette maison, c'était un bâtiment construit du temps de Salomon qui sert de magasin d'armes, un arsenal et de réserve matérielle. Et lui, il va voir ça, c'est la crise, il va voir, est-ce qu'on a suffisamment de masques ? Verset 9, ils inspectent les murailles de la ville et les stocks d'eau. C'est sage lorsqu'on doit subir un siège. Il faut de bonnes murailles et il faut de l'eau pour pouvoir tenir. Et du coup, au verset 10, il est dit, vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Il détruit certaines maisons de la ville pour récupérer des pierres et fortifier la muraille. Et puis au verset 11, ils construisent un réservoir d'eau géant entre les murailles. Mais verset 11, la deuxième partie, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Ils ont considéré leurs armes, ils ont considéré leurs murailles, leurs stocks d'eau, mais ils n'ont pas considéré l'Éternel qui envoie contre eux cette armée ennemie. Il n'y a aucun problème avec les mesures prises ici. Elles sont bonnes. C'est sage de prendre des mesures de confinement. C'est sage de limiter nos déplacements. C'est sage de faire quelques stops pour éviter de sortir tous les jours chercher de quoi manger. Mais si nous ne regardons pas vers celui qui a voulu ces choses, alors nous sommes des insensés. C'est tellement humain que de faire des plans et chercher des solutions sans prêter attention à Dieu. C'est un problème de priorité. Quand nous faisons face à un danger, à une situation de crise, la première chose que nous faisons, c'est malheureusement de placer notre espoir dans nos plans et dans nos ressources, alors que nous devrions nous tourner vers Dieu et réfléchir à nos voies. En tant que nation, est-ce que nous recherchons le bonheur dans les choses fragiles que sont l'apparence physique, la richesse, le plaisir ou en Dieu ? En tant qu'Église, est-ce que nous avons confiance dans notre organisation, dans notre technique ou en Dieu ? Est-ce que nous sommes préoccupés par nos activités ou par notre communion avec Dieu ? Sommes-nous certains que c'est lui qui bâtit son Église ? En tant qu'individu, est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire par ces choses ? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre ? Y a-t-il des choses que Dieu voudrait changer dans ma vie ? Des idoles modernes qui ont pris sa place, comme la réussite sociale, l'argent, l'approbation des autres. Verset 12, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Ce sont toutes les expressions pour exprimer son repentir, pour s'humilier. Et Dieu nous appelle à cela. Pour les incroyants, la souffrance, la maladie, le deuil sont le mégaphone de Dieu pour les avertir du jugement à venir. Nous allons tous mourir. La mort peut intervenir rapidement à cause d'un virus, ou par accident, ou bien naturellement, après de longues années, mais elle arrivera. Serons-nous prêts à rencontrer Dieu ? On doit apprendre à faire le lien entre ce qui nous arrive et le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette situation ? Puisque c'est lui qui a voulu ces choses et qui les a préparées de loin, c'est vers lui que je dois me tourner pour comprendre ce qu'il veut. Toute souffrance n'a pas nécessairement pour objectif de nous corriger ou de nous faire sortir de notre léthargie spirituelle. Mais nous devrions tourner nos regards vers Dieu et considérer nos voies. La chose la plus importante à faire dans un moment de crise comme celui que nous traversons, c'est d'être certain que nous marchons avec Dieu, selon sa volonté, d'examiner nos propres voies, faire le point sur notre relation avec lui. Et s'il y a des choses à régler, du péché dans mes relations avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes collègues, s'il y a des demandes de pardon ou besoin de pardonner, alors réglons chacune de ces choses avec lui. C'est précisément ce que les habitants de Jérusalem ne font pas. Au verset 13, après avoir dit cela, après les avoir appelés à la repentance, ils constatent « Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge les bœufs et on tue les brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Même face au danger imminent, au lieu de se repentir, les hommes fanfaronnent. Au lieu de se préparer à rencontrer Dieu, ils font la fête. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On raconte que les dernières nuits de Berlin, en avril 1945, ont été marquées par des festivités. L'orchestre philharmonique jouait du Wagner. L'idée d'un Reich, d'un règne allemand, s'est effondrée. La guerre était perdue. Mais au lieu d'une repentance nationale, ou même d'une réflexion, ils tentaient d'oublier dans l'ivresse de la fête. Et ça, c'est ce qui provoque la grande tristesse d'Ésaïe, ici, dans notre passage. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de repentance. Et il sait que sans une confession, sans une repentance et sans la foi dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de possibilité de pardon. Regardez verset 14. « L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Quand il y a de la repentance et la foi, la grâce est toujours possible. Comme nous le rappelle le livre de Jonas, Dieu a changé ses plans. Dieu est un Dieu qui pardonne, qui prend plaisir à pardonner. Enfin, Ésaïe dénonce la folie de nous appuyer seulement sur nos leaders, dans les versets 15 à 25. Shebnam, il est le gouverneur du palais, l'équivalent d'un premier ministre. Shebnam, et il est soucieux de son image, en fait, de ce que les autres pensent de lui. Comment il va pourvoir à ses besoins et comment les hommes se souviendront de lui. Au verset 16, il nous est dit qu'il est tellement préoccupé par cela qu'il se creuse ici. Et verset 16, « Qu'y a-t-il à toi ici ? Et qui as-tu ici ? Que tu creuses ici un sépulcre ?» Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. C'est un étranger, Shemna. Il n'est pas de la région. Pourtant, il se creuse il se fait un mausolée, et parce qu'il veut, qu'on se souvienne de lui. Il est préoccupé par lui-même, alors qu'il aurait dû se préoccuper de la situation spirituelle de son peuple. C'est pourquoi Dieu va rejeter Shebna et placer son serviteur Eliakim à sa place. Regardez verset 19. « Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Eliakim prend soin du peuple. Il est appelé le serviteur de l'Éternel. C'est un homme qui aime son peuple. Il en prend soin comme un père. Et il est fiable. Il est fidèle. Et les hommes s'appuieront sur lui. Il le compare ici dans le verset 23 à un clou. « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. » Ah oui, il est comme un piton là, planté, et tout le monde peut s'appuyer sur lui. Malheureusement, même le meilleur d'entre nous ne peut endurer une telle pression. Et Ésaïe prédit la chute également d'Éliakim et de tous ceux qui se sont appuyés sur lui dans le verset 25. « En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. » Quand les hommes rejettent Dieu pour s'appuyer sur leurs ressources humaines, un jour ou l'autre, ils vont s'écraser. Nous soupirons après un clou solide. Nous soupirons après une personne tellement fiable qui ne nous décevra pas. Mais ce n'est pas un homme. Tournons nos regards vers Dieu. Lui seul ne nous décevra pas. Lui seul peut supporter la pression de l'humanité tout entière. Nous avons tendance à dépendre du leadership des hommes et à oublier notre besoin d'être sous la domination directe de Christ. Dans les jours de crise que nous vivons, levez les yeux vers Jésus-Christ. Regardez comme il nous a aimés à la croix. Il tient, lui, toujours ses promesses. Je voudrais terminer avec trois applications. Tout d'abord, regardons à long terme. Toutes les décisions qui ont été prises ces derniers temps l'ont été dans l'urgence, en raison d'une menace imminente. C'est souvent de cette manière que nous agissons, dans le tourbillon de la vie. Nous décidons alors que nous sommes dans le fond de la vallée, au lieu de monter sur les sommets. Mais pendant ce temps de confinement, où les choses tournent au ralenti, levons les yeux. Regardons ce qui nous attend à long terme. Et si nous ne sommes pas encore en sécurité avec Dieu, réconcilions-nous aujourd'hui avec lui par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé pour toutes nos fautes. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu. En lui, nous ne serons pas déçus. En lui, vous pouvez fixer toute votre vie sur lui. Regardons en deuxième lieu au Seigneur avant de chercher des solutions. L'Église n'a jamais grandi par des techniques marketing, des nouvelles méthodes et des technologies, mais elle grandit par la connaissance de Dieu, par une obéissance, par une confiance en lui. Alors, faisons les ajustements nécessaires dans nos vies. Après cela, faisons tout ce que nous pouvons pour faire avancer son œuvre. Ce n'est pas dans la technique que l'on se confie, mais c'est dans l'Esprit de Dieu qui peut accomplir au-delà de toute mesure, dans nos cœurs, ses plans merveilleux. Il est un Dieu qui sauve et qui continue à le faire. Enfin, troisième application, regardons à Dieu plus qu'à nos leaders. Aussi bons soient-ils, nos leaders nous décevront un jour ou l'autre. Que ce soit dans la société, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, nos leaders trébucheront. Ce que peut nous enseigner ce temps de confinement, c'est de nous appuyer sur Dieu en premier lieu. Même si nous devons prendre soin les uns des autres, Dieu seul le fera parfaitement. Notre Église peut grandir considérablement en maturité et en nombre pendant cette période si chacun s'appuie en premier lieu sur son Dieu pour étudier sa parole, pour faire des disciples, dans sa famille en premier lieu, et puis pour prier ensemble. Oh, recherchons pendant ce temps de confinement à mieux connaître notre Dieu, à vivre d'une manière plus authentique avec lui. Que Dieu nous secoure, qu'il nous aide. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier, parce que au travers des événements et des circonstances de notre vie, eh bien tu nous alertes. Tu cherches à éveiller notre intelligence. Tu cherches à nous aider à porter nos regards vers toi. Et Seigneur, je prie pour que des âmes se tournent vers toi en masse pendant ce temps. Que une véritable repentance, une véritable foi dans le Seigneur Jésus-Christ naisse dans les cœurs. On te prie pour que l'Église progresse en te faisant confiance, en recherchant à t'obéir, à te suivre, à accomplir ta volonté. Et Seigneur, utilise ces temps pour glorifier ton nom dans ton Église. Rends-la plus vivante encore. Fais-la grandir. Tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Bon, combien de temps?
Combien? 20?
20.
Ah, voilà. Ouais.
J'avais plus connu comme ça.